11h30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. À cause de ce mois de juin pourri, il a décidé de revendre sur le Bon Coin la piscine qu'il a fait creuser dans son jardin, Jean-Philippe Bisini.
Bonjour à tous, bonjour.
Elle possède la beauté de Cléopâtre, l'intelligence de Marie Curie, mais la vie sexuelle de Jeanne d'Arc, l'historique Léa Londo.
C'est vrai, j'ai le feu au...
Bonjour.
Il est à l'émission Ce que le Kawa est aux Parisiens au mois de juin, indispensable, waterproof, Didier Porte.
Salut à tous.
Humoriste engagée dans la cause animale, elle a peur que les animaux disparaissent plus vite que les membres du parti Les Républicains.
Bah oui.
La sensible Christine
Bonjour,
Béroux.
Bonjour à tous.
Elle est celle qui est brune et qui ne compte pas pour des prunes sans jamais prendre le melon et en gardant toujours la pêche, la maraîchère du bonheur, Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Didier Porte nous fera une grande annonce. À 11h30, nous recevrons Gérard Holtz pour son livre « Les 100 histoires de légendes du vélo » coécrit avec son fils Julien qui vient de paraître aux éditions Grunt. Et à partir de 11h50, l'avocat et écrivain Emmanuel Pierra sera notre invité pour son livre « Star à la barre » qui vient de sortir aux éditions Hugo Doc. Léa Landau lui a préparé une interview. Et vous, de quoi êtes-vous coupable ?
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Aujourd'hui, il y a une grève du personnel hospitalier. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé ? Vous avez un message pour les infirmiers, les aides-soignants, Jean-Philippe ?
Ah ouais, moi, il y a 3 semaines, je suis allé aux urgences. Là, ils m'ont laissé sortir, mais il faut que j'y retourne, ça va bientôt être mon tour.
Didier ?
Eh bien, si vous me demandez d'estimer mon degré de solidarité avec les infirmiers et les aides-soignants sur une échelle de 1 à 10, alors je vous répondrai 11 minimum.
Enfin, moi, j'ai déjà été hospitalisée une fois, enfin plusieurs fois, mais enfin cette fois-là en particulier, je me souviens, je venais de me réveiller, j'étais partie loin, et j'entends ma tante qui dit « Est-ce qu'on peut la ramener à la maison ?» Et l'infirmière a dit « Non, elle peut mourir dans la nuit. »
Oh là là !
Et il pensait que je dormais encore. Bah, je peux vous dire que je m'en souviens.
Vous n'êtes pas morte ?
Non, bah non, je suis là, heureusement, mais ça a été incroyable. J'ai eu un accident de toboggan aquatique, en plus c'est ridicule.
À quel âge ?
17 ans.
Oh là là !
Ouais.
Oh là, mourir à Aqua Boulevard, franchement, c'est...
Aqualand, Aqualand.
Ah, la loose.
Ouais, c'est vrai.
Alors, justement, à propos des infirmières et des aides-soignants, il y a 2 ans maintenant, j'avais fait une chronique sur les infirmières qui a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux. Et à l'occasion de la grève à l'hôpital, je vous propose qu'on réécoute cette chronique.
Ce midi, je vous parlerai des femmes qu'on ne voit pas dans les journaux. Des femmes qui ne sont pas invitées dans les plateaux télé. De femmes qui se lèvent tôt et se couchent tard. Les infirmières. Aux actrices, on demande toujours « ça va, le tournage n'a pas été trop dur ?»« Ah si, je me suis beaucoup donnée dans ce personnage, c'était éprouvant. » Et avec le réalisateur, ça a été une belle rencontre, je me suis aussi beaucoup donnée. Aux infirmières, on ne demande jamais « ça va, la garde de nuit n'a pas été trop fatigante ?» Bah non, avec un décès, une dépression, une tentative de suicide, un accident de la route, la routine, quoi, comme d'habitude. Aujourd'hui, les infirmières sont en grève, on en parle moins qu'une grève de la SNCF. Oui, quand la SNCF fait grève, ils assurent le service minimum. Quand les infirmières font grève, c'est pour se plaindre du service minimum. D'ailleurs, heureusement que les infirmières ne s'occupent pas des malades comme l'État s'occupe des hôpitaux, sans quoi on arriverait enrhumé, on repartirait amputé. Aux infirmières, en ce moment, on demande de travailler plus pour soigner plus en étant moins. Les infirmières, ce sont celles qui arborent un sourire pimpant pour entrer dans la chambre de quelqu'un sous perfusion. Ah, bah on dirait que ça va mieux ce matin. Bah, faut arrêter de me draguer comme ça, monsieur Lampion. Votre dame a appelé tout à l'heure. Elle a dit qu'elle allait venir. Ah non, Mais non, monsieur Lampion, vous allez être content de la voir. C'est quand même pas elle qui vous rend malade. Oui, pour être infirmière, il faut avoir fait malade 3e langue. Quand on écoute les proches des malades, l'infirmière doit devenir psychologue. Ah bah, il ronfle pas trop fort la nuit parce que chez nous, il fait un bruit d'enfer. Son père, il ronflait, ça a toujours été une famille de ronfleurs. Non, non, ici, il est gentil, je vous assure, on l'entend pas. Oui, parce que vous savez, à le voir comme ça, c'est dur. Hein. Ben, vous inquiétez pas, Mme Lampion, le docteur, il a dit qu'il devait sortir assez vite. Je comprends, il vous manque. Bah, c'est surtout qu'à 2 sur son salaire, 2 mois d'arrêt, je commence à le sentir. Hein. Et oui, infirmière, psychologue, travailleuse sociale, 3 métiers et pourtant un seul salaire, 1600 euros. Les infirmières sont toujours là à tenir une main, à prendre le temps, à sourire pour éviter de penser à demain. Les infirmières, elles sont là quand il n'y a plus personne, quand la nuit est trop longue, quand on est trop vieux, trop seul, trop malade, sans plus aucun espoir de guérir dans l'attente de la fin. Ça y est, vous aviez les yeux qui piquent.
Ouais,
Madame Romanoff, serrez le poing, je trouve pas votre veine. Elle est où votre veine ? Au secours, je vais mourir. Aïe, aïe, aïe ! Oh, j'ai mal ! J'ai pas encore piqué, là. Oui, bah j'ai mal en avance. Les infirmières sont en grève, mais elles sont obligées de bosser. Les infirmières sont en sous-effectif, épuisées, mal considérées, mais elles sont obligées de bosser. Alors ce midi, je voudrais juste dire merci à ces femmes et à ces hommes. Merci pour le bras cassé du petit. Merci pour les soins de mamie. Merci à celles qui enchaînent les gardes le jour, la nuit, le week-end. Merci à celles qui parcourent des kilomètres par tous les temps juste pour changer un pansement. Riches ou pauvres, jeunes ou vieux, quelles que soient nos origines, nos opinions, nos religions, nous aurons tous besoin un jour des infirmières, ces héroïnes du quotidien, qui se donnent à fond pour 1600 euros par mois.
Allez, petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
Stéphane Paco, le Français qui a créé les deux plus grands sites porno au monde, a donné sa première interview ce week-end. On n'y apprend pas grand-chose, sauf que pour avoir pu créer cet empire, contrairement à ses clients, c'est loin d'être un branleur.
Stéphane Paco, le Français qui a créé les deux plus grands sites porno au monde, a donné sa première interview ce week-end. Ah bon, il y a des sites porno en France ? Bah, je comprends pas, mon copain m'avait juré que non.
La SPA lance une nouvelle campagne contre l'abandon des chiens pendant les vacances et la mairie de Paris contre celui des trottinettes sur les trottoirs. Je propose la fusion des deux opérations en une seule avec le mot d'ordre suivant. Si vous tenez absolument à abandonner vos chiens, au moins apprenez-leur à faire de la trottinette afin qu'ils puissent aussi partir en vacances.
Europe.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec la Lando Didier
oui.
Port, Jean-Philippe Bizini, Christine Béroux et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour deux personnes en jouant notre jeu Devinez qui je suis.
Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizini,
oui,
Christine Béroux. Et Didier Port qui est plus sexy que jamais. Hein, vous êtes sexy, Didier ?
Ouais, on va dire ça.
Ouais. Le sexy juste avant
l'homme
l'été.
L'homme de l'année selon GQ.
C'est le moment de notre jeu.
Ah, qu'est-ce qu'on gagne ?
Qui s'intitule comment, Christine ?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Romanoff.
Devinez qui je suis. Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de personnalités. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités qui vont devenir parents, qui sont devenus parents ces derniers mois. Cette semaine, les magasins Comptoir de la Mer vous offrent votre séjour Thalasso, relais Thalasso de Bénodet. Un séjour de deux nuits pour deux personnes en demi-pension avec accès au spa marin et trois soins par personne. Découvrez tout l'univers de la mer dans vos magasins Comptoir de la Mer et retrouvez les sélections mode, pêche, nautisme et déco. Plus d'infos sur www.comptoirdelamer.fr. On joue d'abord avec Cathy. Bonjour Cathy.
Bonjour Anne.
Bonjour Cathy. Cathy, vous avez 44 ans, vous êtes chargée de mission dans une action sociale, vous habitez à Marigny-le-Châtel, du côté de Troyes.
Oui.
Et alors vous êtes avec Michel depuis 20 ans, il est agriculteur ?
Vous savez presque tout, oui.
Agriculteur de quoi ? Il cultive quoi ?
Des betteraves, du chanvre... Des petits pois, des lentilles.
Biologique ou pas ?
Non, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder là.
Ah, c'est super. Et vous jouez avec qui là ?
Je vais choisir Jean-Philippe.
Liste 1 ou liste 2 ?
Liste 1.
Liste 1. Ce sont des personnalités qui ont eu des enfants ces deux dernières années. Vous êtes prête ?
Je suis prête.
Attention, top chrono.
C'est une chanteuse qui chantait moi. Je m'appelle Lolita.
Laurie.
Non, une autre. C'est pas grave. C'est
celui, pas.
Il fait Camping Paradis, l'acteur principal.
Laurent Cantet.
Non. Non. Elle présente Zone Interdite. Oui, elle présente Zone Interdite sur M6.
Ophélie Meunier.
Ok. Elle fait partie de la famille royale. Elle vient d'avoir un bébé. Il s'appelle Archie.
Meghan Markle.
Ouais. Lui, c'est celui dans Pretty Woman. Le monsieur.
Richard
dans... Ouais. Elle est blonde. Elle est avec Michel Cimès. Elle fait le truc de la santé. Une grande blonde qui était.
Adriana Carambeau.
Ouais. Lui, il était dans la haine. C'était le blanc. Il mariait avec Monica Bellucci.
Vincent Cassel.
Ouais, pas
attendez,
mal.
Wow.
Tu t'es bien rattrapé. Hein,
oui.
Si, bonne réponse.
Wow, c'est
bravo,
au début.
Ah ouais. Au début, vous m'avez fait très peur. Ah ouais, parce que, bon, Alizé, c'était pas évident au début. Mais là, si, bonne réponse. Bravo, Cathy.
Merci.
Ah ouais, là, franchement.
Vous étiez stressé. Ouais, bah écoutez, là, c'est bien parti. Hein. On va voir comment se débrouille Mathias. Bonjour, Mathias.
Pas mal du tout.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Mathias. Il est chauffeur routier. Il habite à Plaintel, dans le 22.
peut-être oui, tu parles pas comme ça.
Vous avez un gros camion, Mathias, racontez-moi.
On dirait que ça vous excite. Allez, racontez-moi votre gros camion.
Je roule sur la Bretagne, on transporte du bois.
Donc, du bois ?
On livre les menuiseries, en fait.
Et combien de tonnes il fait votre camion ?
26.
Ah ouais, enfin, quand même.
Un petit porteur.
Il faut transporter des poutres.
Et vous écoutez votre émission, vous écoutez notre émission dans votre camion ?
Oui, tous les jours, ouais, j'écoute.
Ah, c'est gentil ça. Et alors, vous êtes marié depuis 5 ans, vous avez 2 enfants, 4 ans et 8 mois, et vous avez rencontré votre femme dans un camping.
Voilà, ouais, un camping à Arcachon.
Elle avait été élue Miss T-shirt mouillé.
Si on veut.
Non, mais comment vous draguez dans un camping ? Comment vous la repérez ?
Ah bah, j'étais avec des potes, et puis... elle était avec ses copines, et puis sur les soirées.
Là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ?
Ça va faire bientôt 10 ans.
Wow. Ah ouais. Et c'est pas trop compliqué quand vous partez, vous rentrez le soir chez vous, vous dormez dans votre camion, comment ça se passe ?
Non, on rentre tous les soirs.
Ah, ça c'est bien.
Matin, ouais.
Donc vous avez des horaires normaux, en fait. Vous partez le matin, vous rentrez le soir.
Voilà, ouais.
Et le bois, c'est sur des palettes, c'est pas vous qui le portez, j'imagine ?
Si, on porte, en fait, on livre tout ce qui est pour faire l'aménagement des maisons, en fait.
Ouais, vous devez être très musclé.
Mais disons, mais qu'est-ce qui vous arrive ?
Rien, pas du tout.
Oh, vous devez être très musclé.
Mais non, c'est une question. C'est
oh, 28 tonnes.
Elle a dit tout à l'heure qu'elle voulait un plus jeune.
Ah oui.
Vous jouez avec qui ?
Je joue avec Léa.
Léa, donc il faut dépasser 6 bonnes réponses, ça va être compliqué.
Allez, alors, bonne chance.
Il va falloir être plus réactif, hein, ouais. Mathias.
Ouais, ouais.
Des personnalités qui ont eu un enfant ces 2 dernières années. Attention, top chrono.
C'est le Belge qui chante formidable.
Stromae.
Oui, lui c'est le 007, James Bond, le dernier. Oui, elle a voulu tuer son copain à coup de couteau, elle était dans TPMP.
Nabila.
Oui, lui c'est un joueur de foot de l'équipe de France, il est numéro 7, plutôt mignon, petit.
Griezmann.
Oui, elle c'est la présidente du comité Miss France.
Sylvie Tellier.
Oui, lui c'est un chanteur israélien qui était dentiste, qui a fait The Voice.
Je passe.
Lui il a fait les choristes, un acteur.
Junio.
Non, le petit.
Bah c'est pas mal du tout, Mathias. Hein. Franchement,
j'étais
presque. 5 bonnes réponses. Vous n'avez pas trouvé Amir, qui a l'Eurovision, vous savez, qui est devenu papa pour la première fois en février, et Jean-Baptiste Monnier. Ça, c'était pas évident, qui jouait dans les choristes. Bravo quand même. 5 bonnes réponses. Écoutez, comme vous avez failli gagner, Mathias, on vous autorise à jouer avant la fin de l'émission fin juin. Donc rappelez-nous d'ici 15 jours.
Ouais.
Vous méritez parce que vous étiez au bord.
Vous étiez bon.
Ouais.
Okay.
On fait ça ?
Dommage, bah merci.
On vous embrasse, Mathias, continue à nous écouter. Cathy, bravo !
Merci !
Bravo, Cathy !
Merci à Jean-Philippe !
Merci à vous.
Vous nous faites un petit cri de joie, Cathy ?
Oui !
Cette semaine, les magasins Comptoir de la Mer vous offrent votre séjour Thalasso, relais Thalasso de Bénodet. Découvrez tout l'univers de la mer dans vos magasins Comptoir de la Mer et retrouvez les sélections mode, pêche, nautisme et déco. Plus d'infos sur www.comptoirdelamer.fr. Vous allez donc gagner 2 jours et 2 nuits en Thalasso. Bravo, Cathy !
Oh, merci beaucoup.
Vous n'êtes jamais partie en Thalasso, j'imagine ?
Ah bah, vous n'imaginez pas bien. Non, j'adore ça. Je suis déjà partie, mais ça va être avec un grand plaisir que je vais y retourner.
Bah, en plus, y aller sans payer, c'est toujours plus agréable. Quand même.
Ouais.
Tout à fait.
Eh bah, ben, profitez bien, Cathy. On vous embrasse et continuez à nous écouter.
Merci, je vous embrasse tous.
Au revoir.
Au revoir.
Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr.
Europe 1.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Christine Bérou, Jean-Philippe Bizzini, Léa
Renouche
et Didier Port qui nous fera part de son nouvel engagement politique.
Anne Roumanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizini, Léa Londo, Christine Bérou et le toujours plus sémillant, jeune, sexy,
séduisant,
Didier Porte.
Wow.
l'homme.
Merci, merci.
Vous allez bien, Didier Pop?
Ça va très bien, oui.
Ça vous plaît que je vous valorise comme ça?
J'aime bien, oui, je sens que...
Je suis un peu jaloux, moi, on me dit jamais
vous
ça.
Vous tenez en très grande estime.
Bah oui.
Oui, j'ai bien compris. En plus, j'essaye de m'en convaincre.
Vous savez, en plus, vous êtes barbu, c'est devenu à la mode d'être barbu maintenant,
oui,
pour les hommes.
J'ai été rattrapé, effectivement.
Ouais, bah non,
vous allez chez le barbier ou vous faites vous-même?
Non, je fais ça tout seul,
c'est vrai,
vous pouvez le constater.
Non, non, parce que c'est propre.
Oui, c'est plutôt pas mal, hein.
Ouais, ouais.
Merci.
Oui, c'est un côté de, ça vous donne un côté Jules Ferry, je trouve.
Ouais,
c'est... Vous n'avez rien trouvé de plus jeune.
Alors, vous savez que la NASA ouvrira la station spatiale internationale aux touristes de l'espace dès l'année prochaine. Est-ce que vous aimeriez aller dans l'espace, Jean-Philippe?
Bah oui, oui, nous, l'espace, oui. On est parti en vacances avec ma femme et les gamins dans l'espace. C'était moyen.
Bon, enfin, Jean-Philippe, vous avez les moyens de partir en vacances dans l'espace?
Oui, oui, on l'a acheté d'occasion, Renault Espace. Nickel.
Christine?
Anne, vous me demandez si j'aimerais aller dans l'espace après m'avoir reproché toute l'année d'être tout le temps dans la Lune. Faudrait savoir.
Didier Porte, vous avez quelque chose d'important à nous annoncer, votre nouvel engagement politique?
Absolument, ma chère Anne, comme vous vous en doutez, j'ai très mal vécu l'échec de la France insoumise à l'élection européenne et depuis ce dimanche tragique, j'étais en quête d'une nouvelle grande cause à promouvoir, autre que celles qui ont déjà trouvé leur plus farouche défenseur à la table de ce studio, à savoir la suppression définitive de l'impôt sur les barbecues et la possibilité de faire garder gratuitement ses enfants âgés de 0 à 35 ans. Quand j'ai vu la photo d'Yannick Jadot main dans la main avec sa fiancée dans Paris Match, j'ai été fortement tenté de prendre ma carte à Europe Écologie Les Verts. C'est vrai, ça donne envie. Du coup, j'ai choisi d'adhérer à la collapsologie. Une intense perplexité se lisant sur vos visages juvéniles de chroniqueurs en devenir. Je m'explique. Les collapsologues sont des écologistes qui professent une théorie selon laquelle la fin du monde nous pend au nez. À très brève échéance, on va dire entre la semaine prochaine et dans 30 ans, selon les courants. Certains collapsologues sont convaincus que le grand ménage de printemps de notre belle planète se produira dans les 5 ans ou même 2 pour les plus pessimistes. Vous étonnerais-je en vous annonçant que ce sont ces derniers que j'ai choisi de rallier? Attention, j'ai pas dit que j'étais favorable à ce qu'il ne nous reste plus à tous que 2 années à vivre. Non, je milite pour qu'un maximum de mes contemporains en soient convaincus, tant il me paraît plausible que se rapprocher de la mort doit vous faciliter la vie. Déjà, rien que le crédit sur 30 ans que vous avez contracté pour l'achat de votre appartement vous paraît soudain beaucoup moins menaçant. Et vous vous surprenez à appeler votre banquier plus souvent, sans aucune raison particulière, juste pour le fun. Allô, monsieur Pichlinga? Vous allez bien? C'est monsieur Porte à l'appareil. C'est la 3e fois aujourd'hui, vous êtes sûr? J'ai pas fait attention. Non, sans raison particulière, juste le plaisir d'entendre votre voix, monsieur Pichlinga. Ah si, vous pouvez me rappeler combien je vous ai emprunté sur 30 ans, il y a 10 ans? Si, si, redites-le-moi, juste pour le plaisir. Un combien? Un million! Un million! Si, si, redites-le-moi, s'il vous plaît! Allô, monsieur Pichlinga? Ah, il a raccroché, c'est dommage, hein? Et cette supérieure hiérarchique au physique avantageux dont vous rêvez d'obtenir les faveurs depuis tant d'années et qui s'est toujours refusée à vous en évoquant le quand dira-t-on? Vous n'y pensez pas, mon cher Didier? Si je cède à vos avances, on dira non seulement que je suis une femme facile, mais carrément pas difficile. Allez, Marie-Brigitte, tentez donc l'expérience! Qu'est-ce que vous risquez? Dans 2 ans, on sera tous morts. Vous voulez mon avis, la fin du monde, c'est l'avenir.
Alors, vous nous laissez parfois des messages sur le répondeur de l'émission. Au 3921, on a fait une petite sélection, écoutez.
Bonjour à tous, Josiane, 55 ans. J'aimerais savoir où les chroniqueurs vont en vacances, et spécialement Didier Porte, pour aller où il sera. Didier, j'adore votre côté bourré.
Oh, le petit « mmh » de la fin.
Alors, Didier,
alors, vous allez où?
Attendez, on va en parler tous les deux d'abord avant que je donne publiquement mon lieu de vacances. Sinon, je vais être envahi par toutes ces créatures.
Alors, un autre message.
Bonjour, François, 30 ans. Je suis le fils de Josiane. J'aimerais savoir où les chroniqueurs vont en vacances, spécialement Christine Béroux. Pour ne pas aller où elle sera.
Ah, bah voilà, très bien. Voilà.
Un autre message.
Bonjour, je suis Maryse, 61 ans. Alors voilà, j'ai adoré toute l'année suivre votre feuilleton. Est-ce qu'à la fin de cette saison, on aura toutes les réponses? Léa va-t-elle trouver quelqu'un? Le bébé de Christine va-t-il dormir? Anne va-t-elle maigrir? Didier va-t-il sourire? Et JP va-t-il réussir à se débarrasser de sa belle-mère?
Ça, c'est quelqu'un qui nous connaît bien.
Bah, merci pour vos messages. Oui, continuez à nous en envoyer au 3921.
On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Didier Porte, Léa Londo, Jean-Philippe Vizini, Christine Béroux et notre invité Gérard Holtz pour son livre « Les 100 histoires de légendes du vélo » coécrit avec son fils Julien qui vient de paraître aux éditions Grunt.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Buzini, Christine Béroux, Didier Porte et notre premier invité qui est un journaliste qui nous a fait aimer le sport pendant plus de 40 ans à la télé, de Stade 2 au Paris-Dakar. En passant par les JO, il nous a fait vivre les plus grands événements sportifs. Maillot jaune des commentateurs avec plus d'une trentaine de Tours de France au compteur. Il remonte en selle pour nous présenter son livre « Les 100 histoires de légendes du vélo ».
Bravo.
Alors vive le sport et applaudissements pour Gérard Holtz. Ouais.
Merci Anne.
Bonjour Gérard Holtz.
Merci, bonjour. En ce moment, il y a un phénomène qui est plutôt sympathique, c'est que les gens me disent merci. C'est assez étonnant. Ils me disent bonjour et merci parce que mon fils a pratiqué le football, parce que ma fille fait de la natation. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui ne suis qu'un messager, je n'ai été qu'un messager, je n'ai jamais été un champion de quoi que ce soit, mais apparemment le message est passé, comme quoi le sport c'était bon pour le moral et pour la santé, et les gens me disent merci. Ça fait chaud au cœur.
Vous êtes heureux, Gérard Holtz?
Oui, je suis particulièrement heureux.
Là, vous allez jouer, vous avez des projets de théâtre à Paris?
Oui, bah déjà un spectacle que je suis en train d'écrire sur l'histoire de France.
Vous tout seul?
Tout seul.
Un one-man show.
Ouais,
wow.
Sur l'histoire, mais un très 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 original. Voilà. Et puis peut-être reprendre une pièce que nous avons jouée il y a 30 ans avec Patrice Laffont. Sur l'île, ça s'appelle Le Visiteur de l'été, qui est particulièrement intéressante. Il y avait Tiki Olgado qui jouait avec nous à l'époque. On avait joué à Sarlat et on va peut-être le reprendre ensemble. Ouais. Puis il y a encore une autre proposition.
Vous avez l'air heureux. C'est un peu énervant d'ailleurs.
Je pétille.
En couple, heureux, bronzé.
Mais vous avez raison, Anne. Ça énerve parce que ça rend presque jaloux. En ce moment, depuis que je suis revenu de Rome, de l'Italie, où nous avons vécu avec ma femme d'amour.
Muriel Mayet, dites son nom quand même, parce que ma femme d'amour, les gens ne savent pas qui c'est.
Oui, Muriel Mayet, donc, qui dirigeait la Villa Médicis. Je trouve qu'il y a une atmosphère en France de crispation. C'est vrai dans la rue, c'est
de
vrai
jalousie,
dans les relations sociales.
De jalousie. Vous, votre bonheur énerve les gens.
Oui.
Oui, mais moi, je suis pas malheureuse, mais vous m'énervez là. Vous avez trop un bonheur. Je suis heureux, je suis amoureux, j'ai plein de projets.
La recette.
Mais il t'énerve pas en réalité. Tu l'envies, c'est pas pareil.
Oui. Avoir des rêves.
J'en ai des rêves.
Ouais. Tout ça.
Tout le temps.
Tout le calendrier du Stade français.
Pour les réaliser.
Ah bah oui.
Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir en disant « Ah, je réussis pas, je fais pas le métier que je veux faire, je fais pas le sport que je veux faire, je ne suis pas amoureux, etc. » D'abord, la chance, ça se provoque.
Non, mais pour l'amour, c'est compliqué quand même. On peut pas provoquer tout seul.
Il faut être provocante.
Si, non, mais il faut aller à la rencontre des autres.
Voilà. Je vais dans toutes sortes de cocktails. J'arrive, après je vois qu'il y a personne, je suis obligée de rester un peu.
Depuis qu'une voyante lui a dit qu'elle rencontrerait l'amour dans un cocktail, elle se tape tous les cocktails de Paris.
Et elle finit à la poire.
Il faut ouvrir son cœur. Il faut ouvrir son cœur. Il faut être dans une disposition d'esprit où on regarde et surtout, comme vous le faites là dans l'émission, bravo, merci, écoutez les autres. Ouais. Écoutez, c'est essentiel, savoir écouter les autres.
Parlons de ce livre, Gérard.
Oui, parlons.
Gérard.
Qui est un cadeau idéal.
Gérard. D'ailleurs, vous n'avez pas, un prénom terrible quand on y pense.
Non, c'était pour Gérard Philippe. Mes parents, c'était la grande époque de ce comédien formidable.
Mais vous avez embelli en vieillissant, franchement.
Ça y est.
Anne.
Attention.
Je vais appeler Muriel pour savoir
si... Non, mais c'est vrai, vous êtes mieux qu'avant.
Non.
C'est le côté, bronzé, poivre et sel.
Épanoui, poivre et sel.
Alors, il paraît qu'en plus, il vous arrive un truc incroyable. Vous étiez au restaurant en Italie et il y a une femme qui vous repère pour être mannequin.
Oui. Alors, c'est un restaurant en France, en fait.
Il y a combien d'années?
C'était au Puce.
Là?
Ouais. Je vais au Puce voir le stand.
Au Puce en France?
Le stand, oui, à Saint-Ouen, pour voir le stand de la fiancée de mon fils, justement.
L'ex-fiancée?
Non, l'ex, oui. Oui, juste d'accord. Là. Bon. Et on déjeune. Et il y avait une Allemande qui était là avec un Italien qui déjeunait. Une autre table que je n'avais même pas remarquée. Et apparemment, donc, sur ma tête, sur ma gueule, on va dire,
comme dirait Johnny. Elle a demandé ensuite au patron du restaurant qui j'étais et si elle pouvait me contacter. Mais elle ne me connaissait pas. Elle ne m'avait jamais vu à la télévision. Juste pour devenir mannequin pour Brioni, qui est une grande marque italienne qui habille James Bond. C'est Brioni qui fait les costumes.
Et donc vous êtes affiché dans le métro en Italie
Dans la boutique de Brioni à Rome. Il y a au moins deux boutiques. Et ailleurs, et puis dans le catalogue. Donc j'ai
donc
posé pendant une
journée.
Vous êtes
devenu mannequin à 72 ans.
Oui, à 72 ans.
C'est
ouais.
beau. Et vous avez eu d'autres propositions.
Comme quoi, tout arrive.
Ah, oui.
Tout
vous
tout
avez eu d'autres propositions de mannequin.
Oui, il y a Anne Romanoff qui m'a fait une proposition.
On veut savoir tout. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invité Gérard Rolls, venu parler de son livre Les 100 histoires du légende du vélo qui vient de sortir aux éditions Grune. Ne bougez pas.
Anne Romanoff. Tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizzini,
Alain Jo,
Christine Béroux, Didier Porte et notre invité Gérard Rolls, qui nous parle de son livre Les 100 histoires de légende du vélo qui vient de sortir aux éditions Grunt. Alors parlez-nous de ce livre en quelques mots, Gérard
Le
Rolls.
Cadeau idéal pour la fête des pères, déjà. Mmh. Le cadeau idéal pour la semaine prochaine.
Bah, si votre père aime le vélo, parce que sinon...
Le frère, non justement, il va le faire aimer. Ça va faire aimer le vélo, même à ceux qui ne l'aiment pas. Pourquoi ? Parce que ce sont des histoires, en fait. Il n'y a pas de palmarès, on ne va pas parler de qui a gagné. Mais en revanche, on va expliquer, par exemple, qui a inventé le vélo.
Ouais.
Ben, c'est pas Léonard de Vinci pendant très longtemps.
C'est vrai que c'est avantageux comme cadeau, 19,95 €.
Voilà.
Et c'est copieux.
Et on connaît toute l'histoire du vélo avec ça, toute l'histoire des grands champions. Il y a beaucoup de femmes dedans. Et surtout, oui, bon, ça brasse la création du vélo. Par exemple, qui a inventé le pneu ?
Ouais.
Michelin.
Non. Dunlop. Pour son fils. J'adore ce genre d'histoire. De John Dunlop, qui est un vétérinaire écossais qui vivait en Irlande, voit son fils qui n'arrête pas de tomber avec sa bicyclette parce qu'il avait des roues en fer. Ah oui. Il dit, il faut que j'invente quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Il prend du lin et du caoutchouc. Nous sommes en 1885. Et il lui invente le pneu Dunlop. Michelin, 5 ans plus tard,
le fait pour
inventera
les voitures.
Le pneu démontable. Donc les frères Michelin, c'est aussi génial.
Votre père, un jour, vous a acheté un vélo... dans une vente aux enchères, vous dites que c'est le plus beau cadeau de votre vie.
Bien sûr, j'ai toujours circulé à vélo. Mon bouquin, là, 100 histoires de légende du vélo, chez Grunt, le cadeau idéal pour la fête,
pour la
des,
fête
pères.
Des pères. Oui, oui.
À 19,95 €.
C'est une déclaration d'amour pour la bicyclette. Moi, je trouve que la bicyclette, c'est une des plus belles inventions de ces derniers siècles-là. Parce que c'est la liberté. Parce que c'est pas peu loin, parce que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la santé, parce qu'on n'en fait pas assez. Paris, mais c'est épouvantable. Je reviens là, les pistes cyclables dans Paris. Il n'y a pas moyen de garer bien son vélo, de le ranger quelque part à l'abri. Il n'y a pas comme aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a des parkings sur 2, 3, 4 étages pour les vélos, juste pour les vélos, devant les gares, devant les entreprises. Bref, c'est une déclaration d'amour pour le vélo. Et c'est vrai que je rêvais d'avoir un beau vélo. Et mon papouchka, mon père, me dit un jour, on va aller à la salle des ventes. Nous, dans notre jargon, c'était juste à côté de l'atelier de mon père, dans le Marais. Ça s'appelle chez ma tante. Ouais. Parce que les gens n'osaient pas dire qu'ils mettaient en gage hein, leur montre ou leur bijou.
Et donc,
il
y a ce vélo.
Je vois le vélo, j'ai dit, c'est pas possible. Et personne ne lève le doigt, sauf mon père. Et on l'a eu pour une bouchée de pain. Et il était bleu marine. C'était de la marque Rocher. Et je suis reparti avec. Alors, je ne suis pas reparti dessus parce qu'il était crevé. Et il a fallu le réparer. Mais oui, c'était l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais eu.
Quelque chose qui est très important dans votre vie, c'est le Téléthon, Gérard Rolls. Vous étiez à la création du Téléthon.
Oui.
En quelle année ?
En 1987, avec Claude Sérillon, qui est mon intime, mon copain. Et Michel Drucker, qui est venu nous rejoindre. Des familles d'enfants malades sont venues nous voir en disant « Jerry Lewis a inventé le Téléthon aux États-Unis, ça marche depuis 20 ans déjà. Il tenait l'antenne tout seul, Jerry Lewis. Il pourrait être le parrain de la première édition. Est-ce que vous voulez le créer ?» Et c'est vrai que c'était un très,
très grand moment. C'était en 87, ça. Et depuis, ça s'est
Et ça continue, et ça marche.
Vous êtes fier, ça c'est une fierté.
Très, très fier. Très, très fier.
D'avoir imposé ça, parce qu'il y a un moment où les gens voulaient que ça s'arrête, vous êtes battu, enfin...
Comme d'habitude, la jalousie, on en parlait tout à l'heure, la jalousie d'autres associations qui voyant cet argent qui va pour les familles des enfants malades, bien sûr. Et puis, oui, et puis ça a continué avec Sophie Davant, avec Nagui. On l'a fait pendant 13 ans. C'est une des grandes fiertés, ouais, de mon métier de messager. 44 ans de service public, et là, c'était vraiment du service public.
Donc l'été dernier, vous avez pris votre retraite, Gérard Rolls.
Oui.
Les coureurs vous ont fait
par
des
amour, donc.
Par amour pour votre femme.
Oui, pour la suivre à Rome.
Et là, tout le monde vous a fait les adieux, c'était émouvant. Vous avez pleuré ?
Ouais, bah oui, je pleure beaucoup.
C'est vrai ?
Ouais, ouais. Je ne me gêne pas d'exprimer mes émotions, à la fois avec des superlatifs, vous l'avez entendu là.
Un peu excessif.
Voilà, parfois excessif, et on me l'a reproché parfois, oui. Et en même temps, oui, je.
Vous êtes sentimental.
Pour moi, un mec doit pouvoir pleurer exactement comme tout le monde, quoi. Et donc, j'ai pleuré. Non pas parce que je quittais ce magnifique et cet extraordinaire travail, mais parce que les hommages étaient incroyables, quoi.
Mais là, vous revenez.
Je reviens grâce au livre qui
pour
est
la fête des fers.
Non, mais vous revenez aussi autour de France. Vous allez faire...
Non, très peu. Non, je vais accompagner juste des invités. Je vais leur expliquer pendant 4-5 jours. Pour Tissot, qui est le chronométreur officiel, mm-hmm. Il me demande d'accompagner des invités, des champions, des championnes, leur faire découvrir les coulisses.
Et là, vous n'allez pas pleurer ce matin, Gérard Rolls ?
Ben, peut-être, parce que vous êtes tellement gentil.
Ah oh.
Ben oui. Mais oui.
Oh. Elle qui disait il y a 5 minutes, votre bonheur vous m'énerve.
Donc on rappelle ce livre, Gérard Rolls, Les 100 histoires de légendes du vélo, un cadeau idéal pour la fête des pères.
Oui, mais...
Merci d'être passé nous voir.
Mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Europe 1. Anne, et je reviendrai sur Europe 1 vous voir, même si vous changez d'horaire.
Merci Gérard. On se retrouve dans quelques instants. Notre invité sera l'avocat Emmanuel Pierrat. Ne bougez pas.
Midi 30, Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizigny, Christine Béroux. Et notre invité ce matin qui est un avocat spécialisé dans le droit de la culture et de l'information. Il ne porte pas que la robe mais également de nombreuses casquettes puisqu'il est romancier, essayiste, secrétaire général du musée Yves Saint-Laurent. Aujourd'hui, il vient nous présenter son livre « Star à la barre » qui mêle affaires judiciaires et show business. Le polyvalent et passionné Emmanuel Pierrat est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Emmanuel Pierrat.
Bonjour Anne Romanoff.
Bien. Qu'est-ce que c'est que cette voix ?
C'est la voix enrouée, de l'avocat qui va bientôt plaider, mais ça va aller.
Vous allez plaider ?
Oui, je vais aller plaider, bien
avec
sûr.
Avec une voix comme ça ?
Mais on ne commence jamais sa plaidoirie par la phrase essentielle. On commence toujours par un truc du type « Bonjour Monsieur le Président, j'ai l'honneur de plaider devant vous », etc. Pour se mettre en voix et ne pas faire un couac au moment où on doit dire « Je veux l'acquittement ». Voilà. Donc, c'était ma voix de début de plaidoirie, c'est-à-dire de phrases qui ne servent à rien si ce n'est à se mettre en voix.
Alors vous venez nous présenter votre livre « Star à la barre ». De quel genre de barre il s'agit ? Parce que vous êtes sûr qu'il ne fallait pas intérieur ce livre en moins de 18 ans ? Et un avocat qui défend deux prévenus en même temps, il fait des barres parallèles ?
Ce n'est pas du Paul Duns non plus. Donc, non, c'est la barre du tribunal. C'est celle à laquelle comparaissent à la fois les prévenus, les accusés, les témoins. Donc tous ceux qui défilent dans un tribunal. Vous savez, dans un tribunal, il y a une partie qu'on appelle le parquet. Ça désigne aujourd'hui le procureur. Mais c'était l'endroit où on circulait, où les gens qui avaient une robe avaient le droit de parler. Il y a une partie qui s'appelle le carreau. En français, on dit « se tenir à carreau », »,« rester sur le carreau ». C'est la partie du public. Et entre les deux, il y a cette barre qui permet à ceux qui sont sur le carreau de venir d'un seul coup passer aux aveux, dire des horreurs, généralement plaider contre eux-mêmes. Bref, être interrogé par le tribunal.
Alors, votre livre parle de procès impliquant des célébrités. Emmanuel Pierrat, en quoi la notoriété rend les affaires judiciaires plus intéressantes ? Parce qu'on passe de l'idolâtrie à l'effroi ? Ou alors, quand les gens célèbres font des conneries, on se dit « Ah ben en fait, je suis mieux que lui parce que moi, j'ai pas fait ça pour l'instant. »
Ou peut-être qu'ils en deviennent plus humains. Dans mon livre, il y a aussi bien des divorces. Alors, certes, un coup de milliard, hein, comme celui de Trump. Il y a des meurtres. Tout le monde n'est pas meurtrier, je vous l'avoue. Donc, il y a des stupéfiants.
Vous avez déjà eu envie de tuer quelqu'un, Emmanuel Pierrat ?
Qui n'a pas eu envie de tuer quelqu'un ?
Attends la fin de l'émission, tu vas voir.
Après, la différence, entre l'honnête citoyen et l'homme normal, celui qui, normal, a envie de tuer quelqu'un, l'honnête citoyen ne le fait pas et la conscience reprend le dessus.
C'est quoi la dernière fois que vous avez envie de tuer quelqu'un, Emmanuel Pierrat ?
Vous m'avez vu arriver avec une canne, parce que je me suis cassé la figure il y a 15 jours, dans un centre culturel dont le sympathique architecte a oublié de mettre des barrières de sécurité autour des trous très décoratifs qu'il a installés et dans lesquels je suis tombé. Voilà. Et quand je suis arrivé aux urgences, le médecin-chef m'a dit « Ah, vous êtes la 15e victime du nouveau centre culturel. » Donc là, je me suis dit que c'était soit un procès, soit une tuerie.
Alors, dans ce livre, Emmanuel Pira, il y a des affaires très célèbres. Par exemple, le procès O.J. Simpson, Michael Jackson. Ces histoires dont on a beaucoup entendu parler. Qu'est-ce que vous avez apporté de neuf en les relatant? Ou est-ce que vous avez compris des choses en étudiant les dossiers?
Les procès de stars sont exceptionnels. Ils nous ressemblent par certains côtés, mais ils sont exceptionnels parce que ce sont les rares moments où les juges connaissent déjà ceux qui vont venir être jugés par eux. Il est très très rare quand même que quand vous jugez George Michael, vous n'ayez aucune idée de qui c'est ou alors il avait vécu sur une autre planète, surtout quand vous êtes juge à Los Angeles.
Les procès se font aussi dans les médias, en dehors du tribunal, dans les journaux. Vous dites que les juges lisent les journaux et donc c'est important quand on est avocat finalement de plaider la cause de son client dans les journaux.
Évidemment, il faut plaider en haut des marches, c'est-à-dire hors de la salle d'audience, hein, devant les caméras de télé, à la sortie de la salle d'audience, puisque donc encore une fois les caméras, les photos, les enregistrements ne sont pas possibles pendant le procès. Alors il faut répéter les arguments en faveur de ses clients pour les médias, pour
l'image.
Le vainqueur.
Qu'est-ce que vous pensez de Patrick Balkany qui a interrompu Dupond-Moretti quand il disait « mon client est vieux, il a 70 ans » et l'autre a dit « ah bah non, j'ai pas... »
J'ai eu une certaine confraternité pour le pauvre Éric Dupond-Moretti qui a eu beaucoup à faire. Voilà. Donc je ne pense pas que Patrick Balkany soit le client rêvé. Vraiment.
Parce qu'il s'auto-détruit lui-même en fait.
Évidemment, on dit à l'école d'avocat que notre pire ennemi c'est le client.
Donc en fait, il aurait fallu lui mettre
un grand coup de sparadrap, quoi,
le ligoter
sur le visage.
Parfois vous dites Emmanuel Pira à vos clients de se taire.
Ah bah très souvent. Quand on les entraîne, on les prépare dans la salle d'audience.
Ah, vous les préparez, hein, vous les coachez
à la salle d'audience. Bien sûr, il faut les coacher. Il faut préparer les clients à répondre intelligemment au tribunal, c'est-à-dire en dire le moins possible. Parce que plus on parle, plus on fait le jeu du tribunal et moins on se défend bien soi-même. Ça sert à ça, un avocat. C'est advocatum, c'est prendre la voix de, la place de, parler à la place de quelqu'un qui, par le stress, par le manque de recul, par la théâtralité spécifique à la salle d'audience, ne sera pas un bon défenseur pour lui-même.
C'est tout horrible de s'engueuler avec vous quand on est votre copine.
Ah bah là,
parce que
ouais.
Vous avez toujours raison, en fait.
J'essaie d'avoir raison sur tout le monde. Mes 10 amis, mes enfants, ma mère, enfin bref,
coup,
c'est la rhétorique permanente.
Et vos enfants ne peuvent jamais avoir raison avec un père comme ça.
Si. Ma fille est très bien et très douée. Un jour, je lui ai expliqué le système judiciaire dans le détail. Je lui ai dit, voilà, tu sais, je suis avocat, mais je crois qu'il faut que je t'explique bien maintenant. Et le soir, sa mère m'appelle et me dit, mais là, t'es encore au bureau, je t'appelle parce que... Qu'est-ce que tu leur as raconté aujourd'hui? Je dis, ben, j'ai expliqué le système judiciaire. Elle m'a dit, ah, c'est ça, parce que j'ai dit à notre fille, Mathéa, je vais te punir. Elle m'a dit, ah non, t'es pas juge.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Emmanuel Pira, venu nous parler de son dernier livre, Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités, qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc. Ne bougez pas.
Sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizzini, Léa Landau, Christine Mérou et notre invité Emmanuel Pira venu parler de son dernier livre Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités. Alors dans ce livre, Emmanuel Pira, vous relatez aussi des procès comme celui de Paul Naref qui a été poursuivi pour avoir montré ses fesses ou celui de Charles Trenet qui était accusé à 17 ans d'avoir participé à une orgie homosexuelle alors qu'il faisait l'andouille dans un hôtel. Et est-ce qu'aujourd'hui Paul Naref serait devenu une star d'Instagram et Trenet ferait la couve de têtu? Finalement, les coupables d'hier seraient les célébrités tout à fait lambda d'aujourd'hui?
Je suis pas sûr que les fesses de Paul Naref aujourd'hui susciteraient le moindre buzz ou le moindre retweet. Mais Paul Naref, c'était formidable. Ça lui a quand même valu une case poursuite et des amendes records parce que l'affiche a été placardée de façon record et il y a eu 10 francs par amende, ce qui peut sembler peu aujourd'hui, mais ce qui a fait des centaines de milliers de francs. Une condamnation record, mais des ventes qui ont largement permis d'éponger la dette. Trenet et Têtu, bien sûr que les choses auraient changé largement. Trenet a été entraîné en justice par 3 fois et par 3 fois, c'était des histoires avec... des adultes, ou en tout cas des jeunes gens qui étaient majeurs, entre guillemets, sexuellement largement, mais pour qui la loi considérait qu'ils devaient être majeurs seulement à 21 ans. Il ne faut pas oublier hein, que jusqu'en 1974, la majorité, c'est 21 ans. Donc Trenet s'est retrouvé très injustement pourchassé à une époque où on n'aimait pas les homosexuels. Désormais, c'est l'homophobie qu'on n'aime pas, et c'est tant mieux. De façon très, très, très injuste et indigne. Il a été arrêté aux États-Unis, notamment en arrivant en avion, mais ça, c'était autre chose, parce qu'il s'était un petit peu ploté de trop près sous la couverture d'Air France avec son secrétaire. Alors là, les passagers ont trouvé que...
On peut dire qu'il a fait l'amour dans l'avion.
Oui, c'est ça, bravo, comme dans Emmanuel, le premier chapitre, vous savez, de ce roman intéressant où on fait un Paris-Bangkok comme ça sous la couette.
Vous avez déjà fait ça, Emmanuel Pira?
Ah, j'aimerais beaucoup, mais alors je crois que les hôtesses sont assez vigilantes quand même.
Qui a déjà fait l'amour dans un avion ?
Moi, j'ai essayé, mais...
Moi, je suis trop stressée, moi, dans l'avion.
Moi, je voyage que sur EasyJet, il n'y a pas la place.
Et toi ?
Non.
Ah, tu mens !
Non !
Ça se voit que t'as déjà fait ça.
Non, mais c'est interdit en plus, non, monsieur l'avocat ? Qu'est-ce qu'on a droit de faire techniquement ?
Bah, t'as pas droit de te montrer.
On n'a pas le droit de faire quoi que ce soit dans l'avion, en tout cas de ce genre-là. Oui.
Bah, non, ça, ah bon
c'est Non,
c'est un outrage public à la pudeur, une exhibition sexuelle.
Mais si on est caché.
Même si vous vous cachez, il suffit qu'il y ait quelqu'un de tordu qui puisse se mettre dans un coin, arriver à vous observer, et considérer que vous êtes
même
en
si
tort.
Même si on est dans les coffres à bagages au-dessus.
Bon courage, surtout quand l'hôtesse les ouvre brutalement.
Emmanuel Pierra, est-ce qu'on défend une star comme on défend un anonyme ou avec une star, il faut être plus diplomate et les stars font des caprices, les menottes sont trop serrées, je veux pas de café, je veux une pina colada enfin.
Quand on défend une star, on se retrouve avec un procès surmédiatisé, bien évidemment.
Il y a aussi des procès des filles. Je me rappelle, vous ne parlez pas de cette affaire, mais Winona Ryder qui avait été inculpée pour
kleptomanie,
voilà, et qui tout chaque jour à son procès, elle est avec une tenue différente, hyper lookée, etc. Est-ce que quelque part les stars se servent aussi un petit peu de cette médiatisation pour se refaire, non ?
Au procès de Michael Jackson, le grave procès en pédophilie, on a vu défiler tous les Grammy Awards et tous les Oscars. Il y avait
Stevie Wonder,
dont on se demande bien ce qu'il a vu. Pardon pour le jeu de mots, il est trop facile. Il y avait les Bee Gees, il y avait 10 ou 15 stars de la télévision et du cinéma qui défilaient, qui n'avaient pas grand-chose à dire à part Michael Jackson est mon ami, je l'adore, il ferait pas de mal à un animal. Bon.
Les réseaux sociaux maintenant c'est un espèce de nouveau tribunal populaire où chacun est juge et témoin. Vous dites quand les avocats se taisent, ils laissent la place à des non-professionnels puisque maintenant tout le monde commande tout. Moi je pense que cela fait partie de mon expertise et de mon rôle. Donc ça vous agace, ces gens qui commandent tout en permanence ?
Moi, j'aime que la parole soit prise pour analyser un sujet.
Ou les gens qui ont trop regardé le feuilleton américain, ils disent
exactement,
votre honneur.
Oui, exactement, qui confondent tout, qui disent votre honneur, etc., qui plaident de coupable, alors que ça ne veut rien
ça
dire.
Ça arrive, ça, que vous trouviez devant des personnes qui ont regardé le feuilleton américain et qui
comprennent. Ah, très régulièrement, oui. Et puis qui disent des lapsus, entre guillemets, absolument incroyables. Par exemple, vous avez des antécédents, monsieur ? Non, je n'ai qu'une sœur. Les gens sont perturbés, ils sont stressés, tout leur semble insensé. Mais enfin bon, l'avocat que je suis, ça a pu lui arriver aussi de faire une gaffe. Hein. La première fois que j'ai plaidé devant une cour d'assises, il y avait à l'époque 9 jurés populaires et 3 juges professionnels. Ça a un petit peu changé depuis. Et je démarre, c'est la première affaire de meurtre où je défendais un meurtrier et je dis j'ai l'honneur de plaider devant 9 honnêtes citoyens et 3 juges professionnels. Je dis, oh, putain, c'est mal
la
parti.
Bourde.
Et là, vous avez vexé d'emblée.
Là, j'ai ramé un peu avant de remonter.
Et vous avez financé vos études en travaillant à la chaîne dans une usine ?
Ouais, chez Cofadel Service. Je peux donner le nom de la boîte parce que je peux.
Parce qu'ils ont fermé,
toujours. Non. C'était une filiale de Thomson qui faisait des pièces détachées. J'ai connu ce qu'on appelle la chaîne, mais vraiment avec les filles qui arrivaient le matin avec le cou étranglé, enfin avec des marques de strangulation parce que leur mec avait voulu la veille au soir les battre et les étrangler. Le contremaître odieux, enfin la chaîne, quoi, telle qu'on la voit dans les films ou telle qu'on l'avait vue.
Maintenant que vous êtes un avocat mondain, tout ça, vous pensez à cette période-là?
Je trouve important d'avoir vécu ces périodes-là. Et ça permet d'habiter à Saint-Germain-des-Prés, d'être un avocat mondain en restant un citoyen lucide, toujours attentif aux plus humbles et à ceux qui ont le plus besoin d'être aidés.
Alors vous avez écrit énormément de livres. Hein. Vous dites que vous dormez 4 heures par nuit. Vous avez écrit quoi, 100 livres ?
114. Et je dors 2h30, cher Anne Romanoff.
Et pareil, chez vous, on ne peut pas rentrer tellement il y a de masques africains. Que ça fait peur.
Il y a beaucoup de masques africains.
Il y a des trucs hyper bizarres, il paraît.
Il y a mes enfants qui sont bizarres aussi.
Mais qu'est-ce qu'ils disent ?
Je plaisante parce qu'elles s'amusent beaucoup de mes masques africains.
Donc, elles ont bien peur, cette passion.
Non, elles me disent tu crois pas en Dieu, mais t'en achètes beaucoup quand même.
C'est pas mal.
Moi, ça me fait peur, les masques africains. C'est jamais neutre, c'est chargé. Donc, si vous avez plein de trucs chargés.
C'est parce que c'est la coupée qui vous représente que j'ai chez moi qui vous
quoi
fait peur.
Vous avez... Ah, c'est ça mes problèmes, c'est à cause de la poupée ligotée.
C'est la Romanoff, ça va coûter cher pour vous désembouter.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Emmanuel Pierra, venu parler de son livre Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc. Ne bougez pas.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Vizini, bonjour. Christine Bérou et notre invité Emmanuel Pira, venu parler de son livre Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités, qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc. Alors en 2004, vous avez défendu le mariage de Beck, premier mariage homosexuel de France. Vous doutiez qu'8 ans plus tard, le mariage homosexuel serait légalisé. Ça doit être une fierté, ça, d'avoir été le premier à défendre
ça. Oui, c'est une fierté, c'était le but, hein, d'obtenir la légalisation du mariage. On a à l'origine lancé une tribune dans le monde avec quelques amis, Jane Birkin, Pierre et Gilles, Jacques Derrida, c'était un peu chic. Alors, on était une vingtaine à signer, parce qu'en Californie, à ce moment-là, il y avait le mariage, premier mariage gay autorisé. Et puis, il y avait eu une agression homophobe extrêmement grave dans le nord de la France. Des imbéciles, des abrutis, des criminels avaient jeté le feu, enfin des cocktails Molotov sur un garçon qui avait brûlé dans son jardin. Donc, c'était dément. Donc, moi, je me sentais un devoir d'écrire une tribune et de dire « Nous voulons le mariage parce que c'est indispensable pour l'égalité des droits. Le mariage, c'est un truc ringard, inventé pour la famille bourgeoise. Mais s'il ne faut pas passer par là pour l'égalité, faisons-le. » Et puis, on lance ce truc et arrive à la mairie de Bègle, chez Noël Mamère, deux garçons qui n'avaient pas lu Le Monde, mais qui avaient entendu Sud Radio leur dire dans Le Monde, Noël Mamère dit qu'il va marier les couples gays. Et ils se pointent à la mairie, et là, Noël m'appelle, et me dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, bah, Noël, on va aller jusqu'au bout. Et on a lancé le mariage de Bègle. Et de fait, ce mariage a fait bouger les lignes. Le soir du mariage, c'était 6 mois plus tard, où on avait d'un côté les horreurs, on a reçu 5000 lettres de menaces de mort, d'horreurs, de trucs. Et puis de l'autre côté, il y a eu un soutien extraordinaire. Et les sondages ont montré que l'opinion publique avait bougé largement. Et quelques semaines plus tard, Nicolas Sarkozy, qui était ministre des Finances à l'époque, a aligné le statut fiscal du Pacs sur celui des couples hétérosexuels, du mariage hétérosexuel. On a créé la HALD, la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations. On a créé la loi sur le sexisme et l'homophobie en quelques semaines. Donc déjà, ça a été une première victoire. Et effectivement, quand le mariage pour tous est passé, on l'a pris personnellement, ceux qui avaient été impliqués dans cette affaire de Bègle, comme une victoire personnelle.
Alors Emmanuel Pira, vous dites un avocat se doit de défendre tout le monde et que vous dites dans votre cabinet, vous forcez les jeunes avocats à accepter toutes les affaires. Ils n'ont pas le droit de refuser ?
Ils n'ont pas le droit. Si, ils ont le droit de refuser. Ils ont une sorte de libre conscience. C'est comme un médecin. On peut refuser un cas si on le trouve, si on a une raison personnelle qui vous empêche de le plaider. Mais globalement, si vous êtes avocat pour défendre que des innocents et que des veuves et que des orphelins, c'est que vous êtes trompé de métier. Hein. Donc moi, j'aime beaucoup emmener les jeunes avocats, les jeunes avocates, défendre avec moi deux, trois affaires, on va dire. On dit belles affaires dans mon jargon pour dire une affaire bien crapoteuse de meurtre. C'est comme chez un cancérologue quand ils disent « Ah, c'est une belle tumeur !» C'est généralement que ça ne va pas aller bien du tout. Donc,
Comment on peut défendre, par exemple, un des jeunes qui aurait jeté ce cocktail Molotov sur le jeune garçon dans son jardin?
Moi, j'aurais du mal, parce que je sais aujourd'hui, à 50 ans, après 27 ans de barreau, que j'ai du mal et que mes opinions personnelles peuvent parfois prendre le pas sur ma défense. Et donc, je refuse certains dossiers dans lesquels, non pas je réprouve en tant que tel le fait de les défendre, mais je sais simplement que je deviendrai volontairement mauvais avocat. Mmh. Je l'ai été une fois dans un dossier où je me suis retrouvé à défendre un type qui avait tiré sur des jeunes gens d'origine maghrébine et qui m'a dit dans mon cabinet qu'il l'avait fait parce qu'il était raciste. J'avais accepté de le défendre. J'ai défendu, je pense, en plaidant comme une quiche. Et il a pris le maximum. Et à la fois, je me suis senti rasséréné par le fait qu'il avait pris maximum et très honteux comme avocat d'avoir mal fait mon travail. Donc je me suis dit qu'à partir
si
de ce moment-là...
Si vous écoutez, là, il va vous tuer, non?
Tout va bien.
Il sort la semaine prochaine.
et donc je me suis dit ensuite que je ne prendrai plus un certain type de dossier. Moi, je ne défends pas, je le dis, l'extrême droite, les fachos, les racistes, les haineux, au sens... Mais je défends, par exemple, des terroristes, je défends des violeurs, je défends aussi des victimes de viols, je défends l'humanité parce que c'est mon devoir.
Vous êtes quand même au contact de ce que l'humanité a de pire, Emmanuel Pira, dans votre cabinet, il y a quand même, vous entendez des tas de choses. Comment on survit à ça? Je veux dire, on est blasé au bout d'un moment, on est comme un médecin, on est clinique, ou alors on est affecté quand même?
Non, on est affecté quand même, mais on porte une robe, chère Anne Roumanoff. La robe, elle ne sert pas à autre chose qu'à pouvoir le soir, quand on quitte le palais de justice, être un autre, redevenir soi-même. Ça, c'est très important. Tous les avocats sont attachés à cette robe.
Est-ce que d'un point de vue juridique, on peut rire de tout?
On devrait pouvoir rire de tout, mais vous connaissez la formule, Anne Romanoff. Pas avec n'importe qui. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'on devrait pouvoir rire de tout. Le problème est qu'on est avec nos petits smartphones, avec des gens qui ne voient pas la totalité d'un spectacle, d'une blague, d'un moment où on raconte une œuvre d'art, une pièce, un roman, et qui en pique un extrait, le diffuse sur Internet, et pense qu'ils peuvent réduire comme ça ce qui a été une construction intellectuelle intéressante, drôle ou quoi que ce soit, à un extrait qui, évidemment, devient en apparence outrageant ou problématique.
Alors j'en profite pour vous demander, puisque vous vous occupez de la propriété intellectuelle, souvent nous les humains, ils ont fait des tweets, et ensuite, alors soit on retweet, mais il y a des gens qui copie-collent nos tweets drôles et qui se les approprient. Est-ce que c'est légal ça? Est-ce qu'il faut arrêter de tweeter? Qu'est-ce que je fais?
On va plaider, cher ami.
Je vais prendre votre numéro de portable. Europe.
On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Emmanuel Pierrat, venu nous parler de son dernier livre « Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités » qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Busigny, Léa
Londo
et notre invité Emmanuel Pierrat, venu parler de son dernier livre « Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrités ». Alors Emmanuel Pierrat, vous avez écrit plein de livres, vous êtes franc-maçon.
Oui,
pourquoi vous êtes franc-maçon?
Parce que c'est le camp du bien, si je puis me permettre. C'est l'humanisme, c'est les valeurs de la République.
Il y a une vraie solidarité entre tous les francs-maçons, surtout.
Au-delà de la solidarité, il y a l'amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, le triptyque républicain si malmené. Les francs-maçons, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789.
Vous allez tous les jours, toutes les semaines à des réunions?
Oui, bien sûr.
Comment vous trouvez le temps de faire? Je sais que vous dormez que 2h30 par nuit, mais quand même.
Oui, mais ça me semble indispensable. C'est une très bonne respiration pour moi d'être avec les autres et justement de moins parler que d'habitude et d'écouter un peu ce que mes semblables ont à me dire. Voilà, la franc-maçonnerie, c'est l'écoute des autres et le fait de penser que l'être humain est indispensable et primordial.
Voilà. Et
c'est une œuvre importante qui a 3 siècles et demi en France, qui a été à l'avancée de grandes lois sociales, du code du travail à tout un tas d'avancées en faveur des femmes. Et il me semble important de continuer à participer à ce travail.
Mais alors vous êtes vraiment bizarre aussi, parce que vous avez un...
bizarre quand j'ai mes costumes de franc-maçon, ça, je suis d'accord.
J'imagine, mais après vous avez aussi un goût pour les livres érotiques, en plus des masques africains.
La dernière fois que vous êtes venu dans ce studio, quand vous avez vu, vous aviez dit que vous laissiez en évidence maintenant vos livres érotiques et que vos enfants étaient tombés dessus parfois.
Exactement, parce que je me suis aperçu que ma première fille savait lire le jour où, dans ma bibliothèque de ma chambre, elle a commencé à dire « Qu'est-ce que ça veut dire, papa, orgie de salope moderne ?» Orgie de mais ça va pas, je dis.
Ça, c'est 8 ans de thérapie, après, vous rendez pas compte.
Oui. Oh non, c'est pas 8 ans de thérapie. Quand on élève les enfants avec l'éducation, la pédagogie, etc., en leur expliquant que ça n'est pas de leur âge, que ça c'est possible, etc. Donc elles savent qu'il y a des livres qui sont pour les adultes, que ça peut parler de sexualité, que ça ne les concerne pas et ça ne leur vient pas à l'idée parce que comme ça ne leur est pas désigné en haut d'un caché comme un pot de confiture ou j'en sais rien en haut d'un truc.
Vous avez des titres à me conseiller parce que...
Vous dites que vous êtes bibliophage, que vous êtes construit avec les livres et que vous avez vraiment lu par exemple tous les livres de la bibliothèque qui était près de chez vous.
Et les Atriolets à Pantin.
Voilà, vous avez tout lu.
Ouais.
Que même votre tante, elle vous offrait des Pléiades à chaque anniversaire.
Pour pouvoir lire plus, quand j'ai su lire en CP, j'ai inscrit mon petit frère qui avait 4 ans à la bibliothèque pour pouvoir prendre le double de livres. Parce qu'on avait droit à 4 livres par enfant par semaine, donc ça m'en faisait 8.
Et là, vous lisez toujours autant.
C'était déjà des livres porno à l'époque.
Je lis toujours. Je lis toujours autant et j'ai dédié un de mes livres, j'ai parlé souvent dans un de mes livres de la bibliothécaire qui s'est occupée de moi ainsi que de l'institutrice qui m'a appris à lire. Pour moi, c'est les deux femmes qui ont le plus compté avec, après ma mère. Donc,
dites leur nom, c'est sympa pour votre femme.
Marie-Claude Butchek qui était l'institutrice et Madame Belkédar, la bibliothécaire. Mais deux femmes extraordinaires qui existent toujours et à qui je dois ce que je suis.
Je vous présente Léa Lando, qui est une femme extraordinaire aussi, mais c'est moins connue.
C'est vrai, malheureusement. Alors Emmanuel Pierrat, vous avez répertorié toutes les affaires de Star à la barre dans votre livre du même nom. Mais vous savez ce que l'on dit des jaloux? Ce sont eux les plus jaloux. Alors je suis sûre que vous n'êtes pas blanc-bleu, vous non plus. Je vous ai préparé une interview. Et vous, de quoi êtes-vous coupable, Emmanuel Pierrat?
Pour répondre vite.
La plus grosse bêtise que vous ayez faite enfant?
J'ai cassé dans un mariage tout un plateau de coupe de cristal qui arrivait au détour d'un couloir parce que j'ai shooté dedans par erreur et ça a un peu gâché le mariage, il manquait 200 coupes.
Fini au jus de fruits.
Avez-vous déjà consommé de la drogue, Emmanuel Pierrat?
Je crois, mais c'est prescrit.
Est-ce que vous avez déjà menti à un ami ?
Oh, certainement, je suis avocat.
Est-ce que vous avez déjà largué par texto Emmanuel Pierre ? Parce que moi, je considère ça comme un délit qui devrait être puni par la loi.
Ça a dû m'arriver, ouais. Là-dessus, je ne suis pas nécessairement très courageux.
Si un commerçant se trompe et vous rend plus de monnaie que prévu, vous lui dites ou pas ?
Ça dépend de combien.
Est-ce que vous avez déjà commis un adultère ?
L'adultère, ça voudrait dire croire à la fidélité.
Ouais, vous n'y croyez pas.
Non, pas vraiment. Moi, je crois à la loyauté. C'est différent.
Oh, genre.
Tout dire, ça veut dire.
Oh, genre, je te trompe, mais je suis loyale dans ma tête. Oh là là.
Non. Oh, cher ami, cher Romanov, on peut être d'accord dans un couple sur le fait qu'on va se laisser une certaine liberté. Moi, je divorce des gens, mais j'en ai marié une époque parce que j'étais élu à Paris. Et aujourd'hui, on prend une longévité, en gros, à venir, de 60 à 70 ans après le mariage. Donc, je ne sais pas pourquoi.
On va se faire chier.
Si vous vous interdisez totalement tout à coup autre pâtisserie dans la vitrine que celle que vous aviez choisie au départ.
Toute autre pâtisserie.
Ça,
les femmes, c'est des pâtisseries.
Mais
c'est des gourmandises.
Je ne sais pas pourquoi, quand je mariais des gens qui avaient 25 ans, je me disais, eh ben nom de Dieu, ils ne vont pas s'en sortir. C'est la case tribunale pour divorcer 3 ans plus tard, s'ils ne s'autorisent pas un peu de liberté.
Si vous trouvez une enveloppe pleine d'argent dans une cabine d'essayage d'un magasin, vous partez avec ou vous la donnez au responsable ?
J'essaye de cette enveloppe pour voir si elle me va.
Et à votre avis, Emmanuel Pierre, quel genre de crime ou délit pourrait commettre Anne Romanoff ? Autre que voler des vannes, c'est déjà pris par d'autres.
Non, je ne crois pas qu'elle vole de vannes.
Non, ça c'est sûr.
Très bien, et elle écrit très bien sa chronique dans le JDD. Donc voilà, je crois qu'elle n'a pas beaucoup commis de délits, mais je serais ravi, c'est pour son premier délit qu'elle m'appelle comme avocat.
Et ben voilà.
Europe 1, Anne Romanoff. L'histoire de la semaine.
Avant de se quitter, Emmanuel Pierre, je vous propose de participer à l'histoire de la semaine. Le principe, le lundi, nous commençons une histoire. Nos invités de la semaine la complètent les uns après les autres, avec chaque fois un mot obligatoire à tirer au sort dans ce chapeau.
Largué par texto.
L'histoire a été démarrée hier par Philippe Besson. À vous de la poursuivre en une ou deux phrases, sans la terminer, pour que les invités d'après la continuent. On écoute ce qu'il a raconté.
Ce matin-là, le bord de mer était pluvieux, quand j'ai vu apparaître une silhouette qui m'a paru familière.
Qui était celle de mon ex, que j'avais largué par texto, ce qui, selon Léa Landau, m'aurait valu un procès sensation.
Merci Emmanuel Pierre d'être passé nous voir. On rappelle votre livre « Star à la barre, 23 affaires extraordinaires de célébrité » qui vient de sortir aux éditions Hugo et Doc. Merci à vous. Merci. On vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. On sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.